on a assis du cours de Claude, c'est vraiment, on parlait des mieux. Je vais parler de tourbillon, bien sûr. Ce que j'aimerais faire, pour commencer, c'est resituer cette chose-là dans un cadre un peu historique. Ça, c'est un peintre laser, ça. Voilà. Et pour ce situer ce cadre historique, je voudrais donner trois dates. La première date, et c'est la date qui nous concerne tous quand on fait de la condensation de Bose-Einstein, c'est l'année 1924, année durant laquelle Einstein trouve le phénomène de condensation. Alors en deux mots, comment ça s'est passé? Bose, qui était un jeune physicien bengali, avait écrit un article dans lequel il montrait qu'on pouvait retrouver le rayonnement du corps noir en traitant le gaz de photon comme des particules indiscernables. Il avait des problèmes avec ses séries. Il envoie donc son manuscrit à Einstein. Einstein traduit, enfin, Einstein lit le manuscrit et est convaincu de la pertinence de l'approche de Bose. Il traduit le manuscrit, qui encore une fois ne parlait que de photons. Et ensuite, Einstein, dans un papier qu'il signe tout seul, généralise les Bose dans un gaz de particules matérielles et, dans un deuxième papier, la même année, découvre la condensation. Alors, la condensation d'Einstein, enfin, de Bose-Einstein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est ce que Claude a expliqué en détail dans les années qui ont précédé. C'est le fait que quand vous prenez un gaz de Bose, sans interaction, c'est un gaz parfait, c'est une des propriétés remarquables de cette transition découverte par Einstein, quand vous prenez ce gaz de Bose sans interaction dans une boîte, quand à densité constante vous refroidissez, eh bien au moment où la longueur d'onde de Broglie devient de l'ordre de la distance entre les particules, eh bien Einstein prédit une accumulation macroscopique de particules dans l'état fondamental de la boîte. Alors, cette condensation est reçue de manière assez froide, je dirais, par la communauté. Einstein lui-même, dans une lettre à Ehrenfest, dit que c'est une belle théorie, mais contient-elle une vérité? Et Einstein s'est attaqué pas mal, dans les années qu'on suivit, rassuré par des gens comme Lundbeck, parce que la manière dont il prenait ce qu'on appelle maintenant la limite thermodynamique était pas vraiment orthodoxe, c'est-à-dire cette notion de limite thermodynamique n'était pas du tout claire à l'époque, et précisément, ce phénomène de condensation d'Einstein a nettement contribué à clarifier cette notion de limite thermodynamique. Enfin bon, Einstein lui-même, après ce mythe salé 1924, ne va rien publier sur la condensation, jusqu'à, enfin, ne va rien publier du tout, et ça va, comme je dis, ça va rester un phénomène un peu mystérieux, jusqu'à la deuxième année que je voudrais souligner ici, c'est 1938, Capiza, et puis indépendamment Allen et Nixner, découvrent la superficie d'hélium 4 liquide, et là, eh bien, London remet au bout du jour la condensation de Einstein en disant, eh bien, les deux problèmes sont intimement liés, superficie hélium 4 liquide et condensation. La température critique pour l'hélium liquide est voisine de ce qu'on prédirait avec le modèle d'Einstein. Ça, c'est évidemment très séduisant. Le problème, c'est que l'hélium liquide est un liquide, donc les interactions jouent un rôle considérable, alors qu'encore une fois, cette transition d'Einstein, c'était pour un gaz parfait. Et du coup, on est quand même assez loin avec l'hélium liquide de ce qui se passe pour un gaz parfait, c'est-à-dire que même à température nulle, la fraction condensée, c'est-à-dire la fraction d'atomes qui s'exprime dans l'état fondamental de la boîte, de la bouteille, là, ne dépasse jamais 10%, alors qu'Einstein prédisait 100% à température nulle, comme pour un gaz de Boltzmann. Donc ça, c'est la deuxième date que je voulais signaler. Et enfin, la troisième date, c'est Penrose et Anzager, qui étudient maintenant le problème de la condensation de Bose-Einstein, mais d'un point de vue particulier dans l'interaction, montrent que le critère pertinent dans ce cas-là, c'est plus que cette accumulation vue comme ça, c'est la notion de cohérence. Le fait que si je prends l'opérateur psi croix de x, création d'une particule au point x, fois l'opérateur psi 0, destruction d'une particule au point 0, eh bien, si on a condensation, eh bien, c'est que quand la limite de cette valeur moyenne quand x tend vers l'infini n'est pas nulle. Et c'est donc cet ordre à longue portée, cette cohérence, qui est soulignée par Penrose et Anzager. Voilà, donc là, vous avez les deux mots-clés, je dirais, de la suite du séminaire. C'est d'une part la cohérence qui est là dans le critère de Penrose et Anzager, et puis l'autre mot-clé, c'est la superficialité pour Capiva. Et c'est avec ces deux mots-clés qu'on va essayer de jouer dans ce qui va finir. Donc, maintenant, on fait un bond dans le temps, on arrive en 95. 95, donc, on trouve les premiers condensats en phase gazeuse, beaucoup plus proches du modèle d'Einstein, le rubidium à Boulder, le sodium au MIT, plus maintenant pas mal d'autres atomes, hein, le lithium, l'hydrogène, l'hélium métastable et le potassium. Donc, tous ces condensats sont très très dilués, comparés à ce qu'était l'hélium liquide, bien sûr. Et donc, il est naturel, maintenant, de réexaminer les différents critères qui sont apparus d'un point de vue historique pour voir si ces critères sont ou non satisfaits par ces systèmes gazeux. Donc, les critères sont les suivants. Est-ce que ces systèmes sont cohérents? Premier point. Est-ce qu'ils sont superfluides? Deuxième point. Alors, c'est pas aussi simple que ça de répondre à ces questions. Et en particulier, je voudrais insister sur le fait que la notion de cohérence et la notion de superfluidité ne sont pas du tout synonymes l'une de l'autre. Alors, on va faire un tout petit peu de nomenclature ici. Donc la cohérence, hein, si je suis Penrose et Anzager, enfin, exprimé avec des termes plus proches de l'optique quantique, c'est la notion de cohérence. On dira qu'un système comme ça est cohérent, un système de particules, si on peut effectivement décrire ce système en termes d'une fonction macroscopique psi de R et de T. Ce qui, dans notre langage, dit qu'on a cumulé une fraction macroscopique de particules dans cette fonction d'onde psi de R et de T. C'est très analogue, ça, à la description du champ électromagnétique d'un laser, qu'on décrit par un état cohérent, dans lequel tous les photons, entre guillemets, sont décrits par le même champ électromagnétique. Alors, qu'est-ce qui est prédit d'un point de vue théorique? Eh bien, ce qui est prédit, c'est qu'un gaz de Bose à trois dimensions, qu'il soit parfait ou qu'il soit réel, c'est-à-dire du moment qu'il a trois dimensions, on s'attend à ce qu'il soit cohérent, si on a une température assez basse. En revanche, si vous êtes à deux dimensions seulement, et que vous prenez un gaz, avec ou sans interaction, donc gaz parfait ou gaz réel, eh bien, lui ne devrait pas être cohérent. Sauf si on se met à la température rigoureusement nulle. Mais bon, on n'est plus à la température T égale 0. Donc, à ce moment-là, on n'attend pas de cohérence au sens de Penrose et d'Ondaguer, c'est-à-dire une limite non nulle pour cette fonction qui croît de x, psi de 0, quand x tend à l'infini. Donc ça, c'est pour la cohérence. Pour la superfluidité, qu'est-ce qu'on attend? Ben, d'abord, la superfluidité, qu'est-ce que c'est? La superfluidité, c'est le fait que si vous prenez votre milieu, eh bien, on dit qu'il est superfluide si, quand vous lancez un petit caillou à l'intérieur, pourvu que la vitesse de ce caillou soit suffisamment faible, eh bien, le caillou ne va pas exciter le milieu. Il va se propager balistiquement sans être freiné. Donc pas de friction lors d'un mouvement lent par rapport à un objet fixe, où vous pouvez renverser la proposition, hein, ça peut être pas de friction si vous êtes au repos et que vous avez un objet mobile dans ce système. Alors, quel est le modèle d'un superfluide? Ben, le modèle d'un superfluide a été proposé par Landau. Un modèle de superfluide, c'est un système dont le spectre d'excitation est linéaire. Si vous prenez un système qui a très basse température et dont le spectre d'excitation est linéaire, c'est-à-dire que l'énergie en fonction de l'impulsion, c'est simplement C, la vitesse du son dans ce milieu, fois P, impulsion d'excitation, eh bien c'est assez simple de montrer précisément que si on prend un petit caillou et qu'on lance dans le milieu, eh bien, si la vitesse du caillou est suffisamment faible, plus précisément si elle est plus faible que c'est, la vitesse du son, eh bien on n'arrivera pas à freiner le caillou, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à créer d'excitation qui conserve simultanément, enfin, telle que la création de l'excitation conserve simultanément l'énergie et l'impulsion. Donc, un système superfluide, c'est a priori un système dont le spectre d'excitation est linéaire et c'est suffisamment froid. Alors, du coup, ben, on voit tout de suite qu'un gaz de Gauss parfait, le gaz considéré par Einstein en 1924, lui, il ne va pas être superfluide, puisque si le gaz est parfait, les excitations, c'est simplement E de P égale P2 sur 2M, hein, c'est des excitations d'une particule, et donc lui, ben, ce n'est pas un spectre excitationnaire, donc un gaz de Gauss parfait n'est pas superfluide. En revanche, dès qu'on met des interactions, on peut montrer, ça c'est ce que Claude a montré il y a quelques années, en exposant la théorie de Bogoliubov, par exemple, un gaz de Bose réel, soit à deux dimensions ou trois dimensions, lui doit être superfluide. C'est-à-dire que dès que vous mettez une interaction, vous récupérez au voisinage de P égale 0 un spectre de distorsion linéaire, et donc vous récupérez superfluidité. Donc j'insiste bien là-dessus, hein, bien que la notion de cohérence et la notion de superfluidité soient apparues historiquement pour décrire ces systèmes de bosons à basse température, ces deux critères ne sont pas du tout équivalents. On peut trouver des systèmes qui sont cohérents et non superfluides. L'exemple, c'est le gaz de Bose parfait à trois dimensions. Il est cohérent, mais il n'est pas superfluide. Tiens. Non, je n'ai pas envie d'être à jour maintenant. Ah, mais ultérieurement. Ah oh. Allez. Voilà. Donc, gaz de Bose parfait à trois dimensions, il est cohérent et non superfluide. Un gaz de Bose à deux dimensions réelles n'est pas cohérent, mais est superfluide. Donc, on peut être l'un ou l'autre, on peut être les deux, on peut être rien du tout. Bien, donc là-dedans, il s'agit de voir comment est-ce que nos condensats en phase gazeuse, le rubidium ou le sodium, se placent. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ils sont à la fois cohérents et superfluides. Alors la cohérence. La cohérence, je l'évacue assez vite. La cohérence, Claude a discuté en détail il y a quelques années, mais enfin, je dois quand même rappeler pour mémoire une expérience typique qui montre la cohérence de ce système. Et c'est l'expérience faite à Munich dans le groupe de Ted Hensch et Tillmann Lessinger. Et pour montrer la cohérence de ces gaz de Bose, eh bien, ce que les chercheurs de Munich ont fait, c'est une expérience, je dirais, de type Grandview. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur source d'atomes, et puis ils ont fait battre deux points différents de la source, et ils ont regardé si le battement de ces deux points différents conduisait à des interférences avec un contraste appréciable. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est assez simple. On part d'un condensat qui est, par exemple, du rubidium placé dans le sous-niveau hyper fin F égale 1. Donc vous avez trois sous-niveaux Zeeman. L égale 1, ce correspond à l'état piégé dans le gradient de champ magnétique. Donc le condensat est a priori dans l'état M égale 1. Et puis vous avez l'état M égale 0, qui ne voit pas le champ magnétique, donc qui est plat en fonction de la position. Hein, je sais pas si l'énergie magnétique en son introduction. Vous avez M égale moins 1 que je ne vais pas représenter, qui devrait être là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire de ce condensat en rouge, là, deux sources, deux micro-sources atomiques, qu'on va faire battre l'une avec l'autre. Pour les extraire, ce qu'on fait, c'est qu'on applique des radiofréquences résonantes. La radiofréquence 1 est résonante avec les atomes situés au voisinage du fond du condensat, par exemple, donc font presque les moments magnétiques de là vers là, les atomes qui sont à méga 0, qui tombent sous l'effet de la pesanteur. Et le M égale 1, ben, les atomes sont, c'est des atomes qui sont tous sur le bord du piège, résonnant ici, qui vont basculer, voir le moment magnétique basculer, puis également tomber. Alors, que voit-on quand on fait ça? Eh bien, si on est au-dessus de la température critique, ce qu'on voit, c'est simplement l'addition incohérente des deux jets atomiques issus de ce point-ci et de ce point-là. Donc, pas de cohérence au-dessus de la température critique, c'est normal, on n'a pas de condensat de Gauss, on ne s'attend pas à avoir de la moindre interférence. En revanche, si vous basculez en dessous de la température critique, eh bien, vous voyez très nettement sur cette photo hein, qu'il y a effectivement interférence en certains points constructifs, en certains points destructifs, entre la source issue du point 1, issue du point 2, et le contraste des franges ici est très élevé, hein, il est supérieur à 90%, et ça vous prouve qu'effectivement, on a bien affaire à une source cohérente au sens de Penrose et d'Onsager, c'est-à-dire qu'il y a bien un état quantique qui est macroscopiquement occupé, ou si vous préférez, cette fonction psi croix de z, psi de 0, a bien une limite finie non nulle quand je balade sur tout le volume du condensat. Donc cette expérience-là, parmi d'autres, valide complètement la description du système en termes de fonctionnement de macroscopie. J'insiste bien sur le fait que ça ne prouve pas la superfluidité, ça prouve la cohérence. Bien, donc maintenant, on passe à la deuxième question, qui est la superfluidité, qui est celle qui va nous intéresser dans la suite de l'exposé. Donc, est-ce que ces systèmes sont superfluides? Eh bien, la question est restée ouverte pendant assez longtemps, enfin assez longtemps à l'échelle de l'histoire des condensats gazeux, puisqu'ils ont été trouvés en 95, et les premiers éléments de réponse sont arrivés fin 99, donc il y a juste 2 ans. Le premier élément de réponse a été apporté par une expérience MIT, qui est vraiment une copie de l'expérience de pensée qu'on peut faire à partir des critères de Landau, qui consistait à faire la chose suivante, c'est à mettre un objet en mouvement dans le condensat, et à voir si cet objet, quand il bouge, dépose non de l'énergie. Alors de quel objet s'agissait-il? Eh bien il s'agissait en fait d'un faisceau laser dont le désaccord était bleu, c'est-à-dire que la fréquence du faisceau laser était supérieure à la fréquence de résonance des atomes. Elle était très loin de résonance d'ailleurs, comme ça il n'y avait pas de risque de chauffer le milieu par simplement en excitant les atomes, mais ce que le faisceau faisait simplement c'était qu'il creusait un trou, les atomes étaient repoussés des zones de forte intensité laser, donc le faisceau creusait un trou, et donc l'objet c'est en fait le trou, et ce que les gens du MIT ont vu, c'est le groupe de Volante-Éterlé, c'est que si on bouge ce trou à vitesse suffisamment basse, eh bien il n'y a pas d'échauffement du milieu, c'est-à-dire que la fraction condensée, si vous voulez, reste constante au cours du temps. En revanche, dès qu'on dépasse une certaine vitesse critique, bien à ce moment-là, la température augmente et donc il y a des pôles d'énergie. Donc ce que les gens du MIT ont mis en évidence, c'est effectivement l'existence d'une vitesse critique dans ces milieux. Deuxième type de réponse concernant la superfluidité, eh bien ça a consisté à observer des modes très spécifiques d'oscillation du condensat. Le mode en question, c'est un mode qu'on appelle un mode ciseau, c'était une proposition de David Guéry-Hodelin et de Sandro Stringari, et l'expérience a été faite à Oxford. Cette série d'expériences, en fait, est très inspirée de la superfluidité mise en évidence en physique nucléaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on appelle ça des modes ciseaux. L'idée en physique nucléaire, c'est que pour mettre en évidence cette superfluidité des noyaux, eh bien, on peut voir des modes dans lequel vous avez le nuage de protons qui est comme ça, le nuage de neutrons qui est comme ça, et il y a un mouvement du nuage de neutrons et du nuage de protons, l'un par rapport à l'autre, comme ça, exactement comme une paire de ciseaux qui est en train de se fermer et de s'ouvrir. Et ce mouvement, eh bien, le fait qu'il se produise, et qu'il se produise à une fréquence unique et sans amortissement, est une des preuves de la superfluidité à l'intérieur des noyaux. Donc ce que Stringari et David Guéry-Hodelin ont fait, c'est transposer cette notion de mode ciseau à ces condensats elliptiques piégés dans des pièges magnétiques. Et les expériences menées à Oxford ont confirmé les prédictions de Guéry-Hodelin et Stringari et ont montré qu'effectivement, ces modes se produisaient bien avec la bonne fréquence et ça prouvait la superfluidité. Dernière grande classe d'expériences pour étudier la superfluidité, c'est celle sur laquelle on va se concentrer maintenant, c'est la notion de nucléation, de vortex quantifié, ce que Claude a expliqué dans son cours cette année. Et en particulier, on va se concentrer sur une expérience qui est directement inspirée des expériences menées sur l'hélium liquide. C'est ce qu'on appelle l'expérience du baquet tournant. Rotating bucket, en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est, cette expérience du baquet tournant? Alors, cette expérience du baquet tournant, ça consiste à faire la chose suivante. Vous prenez un récipient cylindrique et vous placez donc l'axe du cylindre selon l'axe vertical et vous faites tourner ce cylindre autour de son axe vertical à une fréquence angulaire grand oméga. Et cette expérience permet de mettre en évidence les contraintes très fortes qui existent sur la distribution en vitesse au sein de ce baquet tournant, à l'intérieur du superfluide, à l'intérieur du condensat. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des contraintes en vitesse? Ça, Claude l'a déjà expliqué, mais je peux le rappeler brièvement. Si je décris mon condensat par une fonction macroscopique, donc une fonction qui est une racine de la densité fois un facteur de phase, et puissance IF, eh bien, on sait tous, d'après les premiers cours de mécanique quantique, que la vitesse qui est associée à cette fonction d'onde macroscopique, si c'est simplement le gradient de la phase, un facteur multiplicatif h bar sur n près. Et comme la vitesse est donc proportionnelle à un gradient, eh bien, il y a une condition très forte là-dessus, c'est que la circulation de la vitesse sur n'importe quel contour fermé doit être quantifiée. Le quantum, c'est h sur m, au centre de Planck divisé par la masse élémentaire d'une particule du fluide, et donc cette circulation s'écrit nh sur m, où n est un entier. Donc cet effet-là de quantification de la circulation a été mis en évidence sur le lithium liquide. Je vais décrire dans un instant deux expériences clés sur le lithium liquide, mais en gros, quelle est sa conséquence d'un point de vue qualitatif? Eh bien, première conséquence, c'est que comme vous avez cette condition-là, si vous prenez votre condensat, enfin votre superfluide, l'hélium superfluide, et que vous mettez dans un baquet qui tourne à une fréquence très très faible, eh bien, ce que vous trouvez, c'est que vous ne le mettez pas du tout en mouvement. Un moyen simple de voir ça, c'est que si vraiment la vitesse est très très faible, le champ de vitesse que vous auriez classiquement est tel que la circulation de la vitesse sur n'importe quel contour à l'intérieur du baquet serait très très petit devant H sur M, un seul quantum, donc clairement, la mécanique quantique va choisir de prendre n égale 0. Alors, comment est-ce qu'on se rend compte qu'effectivement, il n'y a aucun mouvement? Il suffit de regarder la surface de l'hélium et on trouve qu'elle est rigoureusement plate. C'est-à-dire qu'au lieu d'être légèrement incurvée, enfin légèrement ou beaucoup incurvé selon la vitesse de rotation, eh bien quand vous tournez votre baquet d'hélium et que vous le tournez lentement, la surface reste rigoureusement non plate, vous n'avez pas du tout le paraboloïde que vous auriez pour un fluide classique, pour un verre d'eau classique en rotation par exemple. Donc en dessous d'une certaine fréquence oméga c, aucun mouvement, c'est la solution n égale 0 là-dedans pour tous les contours fermés à l'intérieur de ce milieu. Et puis ensuite, il y a une fréquence critique oméga c, au-dessus de laquelle l'hélium superfluide accepte de tourner, mais il accepte de tourner pas du tout n'importe comment, il doit accepter de tourner en remplissant toujours ces conditions-là. Et le seul moyen de le faire, ça c'est ce qui a été compris par Feynman et Anzager, c'est d'avoir des lignes singulières qui apparaissent au sein de ce milieu, qui sont en première approximation verticale, donc parallèles à l'axe de rotation. Sur ces lignes, la densité est nulle, et autour de ces lignes, eh bien, il y a la quantification de la circulation de la vitesse qui entre en jeu comme technique-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe avec l'hélium liquide. Quelles sont les preuves que ce modèle-là est bien valable pour l'hélium liquide? Eh bien, il y en a eu vraiment beaucoup. Hein. Je vais juste en citer deux ici, qui sont l'expérience de Vinen en 1961 et puis ensuite l'expérience de Packard et Williams en 1982. Alors l'expérience de Vinen en 1961 a prouvé cette quantification de la circulation. Ça consistait à prendre le baquet tournant, vu de dessus ici, et puis à mettre au centre un fil. Alors ce fil, donc, je ne sais pas s'il y a un pointeur quelque part. Non, c'est pas grave, hein, s'il n'y a pas de pointeur. Bon, vous avez un fil comme ça, qui est vertical. Non, c'est pas grave, vous avez un pointeur qui est... vous avez un fil qui est vertical, comme ça, dans le baquet. Ok, et donc, ce qu'a fait Vinen, c'est regarder les modes de vibration de ce fil, les modes fondamentaux. Alors, si l'hélium est au repos, bien sûr, ce que vous avez, c'est deux modes dégénérés, qui sont le mode de vibration comme ça, enfin, les deux extrémités sont fixées, mais au centre, ça vibre comme ça. Ça, c'est un premier mode de vibration, et puis un deuxième qui est vibré comme ça. D'accord? Ou si vous préférez, un mode de vibration qui serait sigma plus, et puis un mode de vibration qui serait sigma moins. Ces deux modes sont dégénérés par symétrie du problème. En revanche, si vous avez un champ de vitesse non nul autour du fil, eh bien, vous attendez à avoir une levée de dégénérescence des deux modes fondamentaux. Il n'y a plus de raison, si le fil tourne comme ça, par exemple, que le mode sigma plus ait la même fréquence que le mode sigma moins. Donc, ce qu'a fait Vinen, c'est faire tourner son baquet tournant à une fréquence angulaire voisine d'oméga c, et regarder si oui ou non ces deux modes de vibration du fil étaient dégénérés ou pas. Et ce qu'il a vu est la chose suivante. Donc ici vous avez tracé le nombre d'observations, et puis ici vous avez la circulation en unité de H sur M. Il pouvait remonter à la circulation parce qu'il voyait la levée de dégénérescence, c'est un petit modèle de vibration, enfin, comment vibrait le fil, et la fréquence de vibration du fil permettait de déduire la circulation autour du fil. Et bien donc, vous avez le nombre d'observations en fonction de la circulation, et ce qu'il voit, et bien c'est un certain nombre d'observations à circulation nulle, donc ça c'est le superflux de repos, et puis un plateau à zéro, là pas d'observation du tout, jusqu'à ce qu'il arrive à 1, et là il voit un deuxième paquet d'observations correspondant donc à une circulation quantifiée. Donc ça c'était la première mise en évidence de la quantification de la circulation dans ces systèmes quantiques macroscopiques. Deuxième expérience que je voudrais signaler sur l'hélium, avant de passer au condensat gazeux, c'est cette expérience de Packard et Williams en 1982, qui a observé directement ces vortex, ces lignes de singularité. Alors ce qu'ont fait Packard et Williams, c'est la chose suivante, c'est qu'ils ont piégé dans leur condensat, enfin dans leur superfluide en rotation, des électrons. Ces électrons sont venus s'accumuler au cœur des vortex, et ensuite, les électrons étaient accélérés vers un écran phosphore qui était situé au-dessus du baquet tournant. Et donc, ce qu'on voit là, c'est l'image des électrons, l'impact des électrons sur l'écran phosphore. Et donc, cette image des impacts révèle la position de ces lignes de singularité de ces vortex. Donc là, vous avez 6 vortex, un au centre et 5 autour. J'ai nucléé parce que Packard et Williams tournaient leur baquet tournant à la bonne fréquence pour cela. Voilà. Donc, question, est-ce qu'on peut faire ça maintenant avec nos condensats en phase gazeuse? Donc évidemment, la première question, c'est comment est-ce qu'on va faire tourner nos condensats? Qu'est-ce qui va jouer le rôle du baquet tournant dans ces expériences, dans nos expériences en phase gazeuse? Eh bien, il y a deux méthodes, a priori, qui ont été développées pour faire tourner les condensats. Une méthode qu'on peut qualifier de quantique, et une méthode qu'on peut qualifier de classique. La méthode quantique, ça consiste à imprimer sur le condensat la phase qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire imprimer directement la phase à puissance θ. Ça, c'est a priori très séduisant parce que, en principe, on peut imprimer n'importe quelle phase en jouant bien avec des faisceaux laser, des radiofréquences. En pratique, c'est pas si simple à mettre en œuvre que ça, mais néanmoins, ça a marché à Boulder, où ils ont pu imprimer la phase correspondant à un vortex, donc c'est une circulation, un quantum de circulation, elle égale 1, dans un condensat à deux composantes. C'est-à-dire que ce que les gens de Boulder ont réussi à faire, c'était en fin 99, ça, c'était un condensat, enfin il y avait donc deux condensats, c'est-à-dire c'est à chaque fois du rubidium, mais il y avait une des parties des atomes qui était dans un niveau Zeeman, et l'autre partie des atomes était dans un autre niveau Zeeman. Il y avait un premier condensat, donc on se met un niveau Zeeman donné qui était immobile au centre du siège, et puis le deuxième condensat tournait autour du premier, et ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'effectivement ça tournait avec une circulation de la vitesse quantifiée. Donc ça c'est une première méthode pour faire tourner le condensat, c'est imprimer la phase que l'on cherche, la phase dont on a besoin. Encore une fois, d'un point de vue pratique, c'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air, donc c'est pas une manip qui a connu un très gros essor. La méthode classique, elle, consiste à essayer de faire aussi proche que possible de l'expérience du baquet tournant. Dans le baquet tournant, vous avez donc les parois du baquet qui tournent, paroi ont un petit peu de rugosité, et puis c'est elle qui arrive à entraîner le superfluide, pourvu qu'elle tourne assez vite. Et bien là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à mettre l'équivalent de cette rugosité autour de notre condensat. Et pour ça, on va partir d'un piège qui est a priori un piège symétrique, c'est-à-dire qu'il y a donc la même fréquence d'oscillation selon x et y, et on va superposer à ce piège symétrique une anisotropie tournante, et c'est cette anisotropie tournante qui va jouer le rôle de la rugosité des parois du baquet. Alors ça, c'est ce qu'on avait donc commencé à faire en 1999, et maintenant il y a d'autres groupes qui s'y sont mis, au MIT, à Boulder et à Oxford. Alors qui travaille là-dessus à Paris? Eh bien, vous avez ici le nom des gens qui ont travaillé ou qui travaillent encore là-dessus. Vincent Bretin et Frédéric Chély, donc, sont étudiants en thèse, Frédéric a bientôt fini. Et Kurt Madison et Peter Rosenbusch sont postdocs. Enfin, Kurt, lui, est déjà parti, et Peter est arrivé il y a maintenant quelques mois. Et d'un point de vue théorique, donc, il y a Yvan Testin et son groupe, et Georges Chatnikov et son groupe, avec qui on interagit presque de manière quotidienne, je dirais. Voilà. Alors, maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails. Comment est-ce qu'on fait tourner ce condensat? Comment est-ce qu'on applique cette anisotropie tournante? Et bien, tout d'abord, comment est-ce qu'on fait notre condensat? Alors, la préparation du condensat, il y a quelques années, ça faisait l'objet d'un séminaire entier. Maintenant, c'est ça, c'est l'objet d'un demi-transparent. C'est une technique qui est complètement standard. Là, on n'a vraiment pas beaucoup innové par rapport à ce qui est fait ailleurs. On part d'atomes de rubidium qu'on refroidit par laser, on les transfère dans un piège magnétique, et dans le piège magnétique, on a un refroidissement par évaporation que l'on pousse le plus loin possible de manière à avoir un condensat quasiment pur. C'est-à-dire qu'on ne voit à la fin du refroidissement, on ne voit plus de fraction thermique. On pense que 80-90% de nos atomes sont condensés. 80-90% des atomes, ça fait combien en nombre réel? Ça fait entre, disons, 100 000 et 400 000 atomes. Et la température, donc encore une fois, on ne peut quasiment plus la mesurer tellement c'est froid, elle est inférieure certainement à 100 nanokelvin. Alors notre condensat a une forme de cigare, en fait, c'est un condensat qui est très allongé. La longueur du cigare, c'est 120 microns, le diamètre du cigare, c'est 6 microns. Donc ce que j'appellerai l'axe Z dans la suite, ce sera cet axe lent, et les axes XY sont les axes rapides du piège. Axe lent et axe rapide, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on peut modéliser le potentiel magnétique par potentiel harmonique. La fréquence dans le plan XY, c'est de l'ordre de 200 Hz, alors que la fréquence en Z est beaucoup plus faible, 20 fois plus faible, 10 Hz. C'est ce facteur 20 que vous avez ici, qui se transcrit par un facteur 20 entre les longueurs 6 microns et 120 microns. Bien, donc ça c'est le condensat qu'on produit à typiquement toutes les 20 secondes. Ensuite, il s'agit de le faire tourner, le mettre dans le baquet tournant. Comment est-ce qu'on le fait tourner? Eh bien, nous dans notre cas, ce qu'on prend c'est une petite cuillère qui est une cuillère laser. C'est-à-dire qu'on va utiliser la force dipolaire d'un faisceau laser très désaccordé, pour mettre le condensat en rotation. Donc on éclaire nos atomes, nos cigares, avec un faisceau laser qui se propage selon l'axe du cigare, donc selon l'axe Z ici, et ce faisceau laser a une forme elliptique. Alors en fait, il n'a pas vraiment une forme elliptique, il est rond, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait, avec des modulateurs acoustiques, on fait sauter très vite de part et d'autre de l'axe du cigare, comme ça, très vite, c'est à 100 kHz, donc les atomes ne se rendent pas compte qu'on a un faisceau laser qui saute, et tout ce qu'ils voient, c'est l'intensité moyenne, c'est donc elliptique, d'accord? Cette ellipse, c'est la moyenne de deux cercles décentrés par rapport au sens du piège. Bien, alors, quel est le rôle de ce faisceau laser? Eh bien, comme je disais, c'est de faire un potentiel dipolaire, c'est donc de venir modifier légèrement le potentiel du champ magnétique créé par le champ magnétique. Donc, au potentiel créé par le champ magnétique qui est là, on rajoute un potentiel dipolaire qu'on peut mettre sous la forme 1,5 de m oméga per carré, oméga per, c'est la fréquence de 200 Hz, là, epsilon x, x2, plus epsilon y, y2, où x, y sont les axes propres de cette ellipse du faisceau laser. Alors, epsilon x et epsilon y sont des nombres sans dimension, et le rôle de ce nombre sans dimension, c'est de caractériser la force du potentiel dipolaire par rapport au potentiel magnétique. Donc, ils sont petits moins, vous voyez, ici c'est 3% pour epsilon x, 9% pour epsilon y, ce qui veut dire que le potentiel dipolaire qu'on ajoute est une petite perturbation par rapport au potentiel qui confine les atomes. Et ce qui est important, évidemment, c'est que epsilon x et epsilon y ne sont pas égaux entre eux, donc j'ai effectivement une anisotropie. Et quand je vais faire tourner cette anisotropie, je vais pouvoir espérer mettre mes atomes en mouvement. Évidemment, si epsilon x est égal à epsilon y, je n'aurais pas de chance de dire que ça tourne. Parce que n'importe quelle base, c'est impossible. Voilà. Donc, on a ce système. On fait tourner les axes propres x et y à une fréquence grand oméga, toujours avec nos médiateurs axes. Ça, c'est programmé par ordinateur. Et puis, ce qu'on espère, c'est nucléer comme ça un tourbillon, un vortex, ou plusieurs. Et donc, il s'agit de voir si on peut les détecter, ces tourbillons. Alors la réponse n'est pas aussi simple, là encore une fois, que ce que ça en a l'air. A priori, voir un tourbillon, c'est pas évident, parce que le cœur du tourbillon, c'est quelque chose de très petit. Le cœur du tourbillon, Paul l'a calculé il y a quelques semaines, et le cœur du tourbillon, c'est simplement la longueur de relaxation, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà, healing length, c'est 1 sur racine de 8 pi, soit la densité du condensat, soit la longueur de diffusion. La densité du condensat, c'est 2 10 14 atomes par centimètre cube. La longueur de diffusion, c'est 5 nanomètres. Et ça, quand vous faites l'application numérique, vous trouvez que le cœur du tourbillon, c'est simplement une petite fraction de micron, 0,2 micron. Donc, comme on va regarder notre condensat avec des photons visibles ou infrarouges, on ne pourra jamais voir un détail d'une taille de 0,2 micron. Donc, a priori, on peut avoir du souci et se dire qu'on n'arrivera pas à voir les tourbillons, même si on sait les nucléer. Alors, heureusement, on a un microscope pour observer ce condensat. Ce microscope, ça consiste simplement à faire un temps de vol. Ce temps de vol, on le fait en coupant à un instant donné la cuillère laser et le potentiel magnétique qui confine les atomes. À ce moment-là, ce qu'on peut montrer, c'est que le cigare qu'on avait, avec, on espère, un tourbillon au centre, c'est-à-dire un trou, si vous voulez, qui est parallèle à l'axe, enfin, qui est sur le centre du faisceau, là, on va démarrer. Donc, ce qui se passe dans le temps de vol, c'est que ce cigare se transforme en crête avec une dimension bien plus grande pour le rayon. Si on prend un temps de vol de 25 millisecondes, on peut montrer assez facilement que ça correspond à un grandissement de facteur 40 de toutes les dimensions transverses. C'est-à-dire que le cigare qui avait initialement un diamètre de 6 microns, se retrouve maintenant avec on se retrouve avec une crête dont le diamètre fait 240 microns, hein, 40 fois 6. Et le cœur du vortex, qui ne valait que 0,2 microns au départ, eh bien maintenant il vaut les 40 fois plus grand, il vaut 8 microns. Alors 8 microns, là il n'y a pas de problème, quand même avec une optique de pas très grande qualité, on peut espérer détecter les cœurs de ce vortex. Bien, alors, que voit-on quand on fait l'expérience? Eh bien, on voit la chose suivante, qui rappelle de beaucoup, au moins d'un point de vue qualitatif, ce qu'on voit avec l'hélium liquide, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence critique en dessous de laquelle rien ne se passe. Donc là, le condensat reste comme si il n'avait pas eu du tout de cuillère autour de lui. Enfin, il y a une cuillère qui a tourné, mais on ne la voit pas. Mais j'ai oublié de dire comment est-ce qu'on imagine le système. Je reviens en arrière juste un coup. Comment est-ce qu'on obtient ce faisceau? On obtient ces images là en envoyant ici un faisceau imageur parallèle à ce qui était la vie du cigare initial. Hein. Donc on espère voir un trou au centre. Donc, ce qu'on voit quand on tourne en dessous d'une fréquence critique, eh bien, c'est rien du tout au centre, comme si le condensat n'avait pas vu la cuillère. Donc c'est l'équivalent de la fréquence critique qu'il y avait pour l'hélium. Vous pouvez voir ça comme une preuve directe de superfluité. C'est que la rugosité pour l'hélium, hein, pour l'hélium liquide, c'est que la rugosité des parois du baquet ne tourne pas assez vite pour mettre le superfluide en mouvement. Là, c'est l'anisotropie tournante ne tourne pas assez vite pour exciter notre condensat et le faire passer dans l'état d'un vortex. Et puis il y a une fréquence critique au-dessus de laquelle apparaît un trou au centre. Donc ça, on espère que c'est le vortex qu'on cherche. Et puis quand on tourne nettement plus vite, eh bien on voit plusieurs vortex ici qui s'arrangent en motifs réguliers. Et quand on va vers des encore plus grandes vitesses de rotation et vers pour des grands nombres d'atomes, eh bien ce qu'on voit c'est que ces vortex, enfin j'espère vous convaincre que ce sont des vortex dans un instant, ce qu'on voit c'est que ces trous s'arrangent selon un motif triangulaire. Je peux vous mettre quelque chose pour guider les yeux, là, ou pas. Selon un motif triangulaire qui rappelle beaucoup la structure d'un réseau d'abricots d'os, qui est également un réseau de vortex, qui apparaît dans les supraconducteurs de type 2 quand on les plonge dans les champs magnétiques. Voilà. Alors, donc maintenant, les questions que j'aimerais aborder dans la suite de ce séminaire, sont les questions suivantes. D'abord, en regardant cette photo-là, est-ce qu'il s'agit bien d'un vortex quantifié au sens où Claude vous l'a défini dans le cours de précédé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien une phase d'efficience θ, est-ce qu'il y a bien un moment cinétique h bar? Deuxième question, ce que j'aimerais, enfin, je prendrai peut-être dans l'autre ordre, c'est quelle est la fréquence critique qui s'est passée de cette figure 600 vortex à la fréquence à un vortex? Et puis aussi, qu'est-ce qui limite le nombre de vortex dans le réseau? Si vous avez une figure, vous avez 12 vortex présents, pourquoi est-ce qu'on en a 12? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas 120 ou 1200? Qu'est-ce qui détermine le nombre de vortex dans ce réseau? Bien. Alors, oui, comme je le dis, je crois que c'est la réponse à ces deux questions sera inversée dans la suite de l'exposé. Ce n'est pas très grave. Alors, première chose, la phase du vortex. Est-ce que la phase, eh bien, est puissance sous état comme on l'attend? Alors, comment est-ce qu'on peut regarder la phase de ce système? Eh bien, à Boulder, comme j'avais dit, à Boulder, ils avaient fait ce condensat à deux composantes. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pu regarder directement la phase relative entre les deux composantes. Nous, ici, on a un condensat à une composante. Donc, pour voir si la phase d'un condensat à un vortex, c'est bien puissance θ, il faut qu'on fasse une expérience d'interférence dans laquelle le condensat va battre avec lui-même. Si vous voulez, en langage de Poisson, on va faire de l'homodinage, on va faire battre le condensat avec une copie de lui-même et voir si le profil d'interférence révèle ce profil de phase en puissance θ. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ça, ce sont des prédictions théoriques. Si je fais battre un condensat sans vortex avec lui-même, on s'attend à avoir des franges d'interférence parallèles. Avec nos situations supplémentales, on peut en voir typiquement trois franges. Donc voilà ce qu'on s'attend à voir. En revanche, si le condensat a un vortex au milieu, une phase d'efficience θ, ce qu'on s'attend, c'est à avoir des dislocations dans le profil d'interférence. En particulier, on s'attend à avoir cette structure en forme de H, là, contrairement à ces bandes parallèles qu'on avait ici. Donc, voilà ce qu'on va chercher à faire. On va chercher à prendre le condensat, l'original, faire une copie et faire battre l'original avec la copie. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Eh bien, on va utiliser le fait que notre condensat est préparé dans l'état S égale 2 de l'atome de rubidium. L'état hyper fin S égale 2. Donc l'état hyper fin S égale 2 a 5 sous-niveaux Zeeman, plus 2, plus 1, 0, moins 1, moins 2. Et en particulier, les états plus 2 et plus 1 sont tous les deux piégeables dans le piège magnétique. Donc, on va utiliser ça pour faire un original et une copie. Tout ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant est fait dans l'état égal plus 2. D'accord? Donc notre condensat est là. On va d'abord faire basculer une petite partie de l'atome de l'égal plus 2 vers l'égal plus 1. Et pour ça, on va simplement utiliser une radiofréquence résonante avec les atomes, radiofréquence suffisamment puissante pour faire basculer les atomes en, où ils se trouvent. Ce n'est pas comme dans l'expérience de Munich, où on les fait basculer de manière sélective en, au centre ou sur les bords. Là, on met pas mal de puissance dans, le, dans la radiofréquence. Donc tout le monde va basculer, enfin tout le monde va basculer. Les atomes basculent avec une probabilité qui est quasiment indépendante de leur emplacement dans le siège. Donc l'atome passe dans l'égal plus 1. Ensuite, eh bien, on va tirer parti du fait que le centre du piège n'égal plus 1 ne coïncide pas avec le centre du piège n'égal plus 2. Pourquoi ? Eh bien, le centre du piège, ici, l'endroit où la force est nulle, ça résulte de, en fait, de la compression de deux forces. D'une part, vous avez la force magnétique, qui est la force qui crée le piégeage, et plus vous avez la gravité. Alors la gravité est évidemment la même pour les atomes n égale plus 2 et n égale plus 1. En revanche, les forces magnétiques ne sont pas les mêmes. Les moments magnétiques ne sont pas les mêmes. Donc, le point où les deux forces s'équilibrent, gravité et force magnétique, n'est pas le même pour m égale plus 2 et m égale plus 1. Donc, quand je fais basculer les atomes de m égale plus 2 vers m égale plus 1, eh bien, les atomes de m égale plus 1 vont commencer à osciller, vont venir ici, puis revenir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on passe d'atomes de plus 2 vers plus 1, ils commencent à osciller, et quand ils sont par ici, on les rebascule vers m égale plus 2 avec une deuxième impulsion RF. Et à ce moment-là, on a bien notre original, ce sont les atomes qui sont restés dans m égale plus 2, notre copie, c'est les atomes qui sont venus ici, puis qui sont rebasculés dans m égale plus 2, et l'original et la copie sont déplacés l'un par rapport à l'autre. Donc si maintenant je coupe le piège et je laisse tout ce petit monde-là s'étaler, eh bien j'espère voir des franges d'interférence. C'est ce qui est symbolisé sur ce dessin-là. Hein. Vous avez une partie d'atomes qui reste dans l'état égal plus 2 et d'autres atomes qui passent vers plus 1 pour revenir vers plus 2. Alors que voit-on quand on fait ça? Eh bien, si on part d'un original qui n'a pas de vortex, quand on fait ce processus original copie et qu'on fait interférer les deux, on voit ces franges parallèles, comme je l'avais annoncé. Pas de surprise. En revanche, si on a un vortex présent, eh bien, on voit bien la dislocation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette sorte de lettre H ici, vous voyez, c'est donc la signature de cette phase en puissance θ. Ce qu'il faut noter, c'est que de temps en temps, on voit ça, c'est-à-dire on voit un H noir, là, cette ligne-là est noire. D'autres moments, c'est-à-dire pour d'autres réalisations de l'expérience, on voit au contraire cette dislocation qui est brillante. Ça signifie qu'en fait, on contrôle mal dans l'expérience la phase relative de ce chemin-ci, de ce chemin quantique-ci par rapport à ce chemin quantique-là. Il y a probablement des fluctuations de l'expérience, des choses qu'on maîtrise mal, qui font que les deux phases relatives fluctuent l'une par rapport à l'autre. Donc, de temps en temps, il y a une interférence constructive au niveau de cette dislocation-là, et à d'autres moments, une interférence destructive. D'accord? Mais bon, ça, c'est pas très important. En tout cas, le profil de phase est bien ce qu'on attend. Et même type d'expérience a été faite au MIT il n'y a pas très longtemps. Deuxième chose, est-ce que le moment cinétique vaut bien H-bar? Alors là, je vais me rapprocher de très près au cours que Claude vient de faire. Pour voir si le moment cinétique vaut bien H-bar, pour mesurer le moment cinétique d'un condensat tournant, eh bien, on va regarder les modes de surface, les modes M égale plus 2 et M égale moins 2, et on va, en fait, s'inspirer beaucoup de l'expérience de Bynum. L'expérience de Bynum, vous rappelez, c'était ce fil qui vibrait au centre du baquet tournant, avec quand il y avait un vortex, eh bien, il y avait une levée de dégénérescence entre les deux modes de vibration du fil. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est très inspiré des sciences de Bynum. Alors, je rappelle ce que Claude vous a dit il y a une heure. En l'absence de vortex, pour des raisons de symétrie évidentes, les modes M égale plus 2 et M égale moins 2 sont dégénérés. Et ça signifie que si j'excite une oscillation quadrupolaire du condensat, eh bien, cette oscillation quadrupolaire va se faire avec des axes fixes. L'oscillation quadrupolaire, ça signifie la chose suivante. J'ai mon figure qui est comme ça, donc avec l'axe qui est perpendiculaire à vous. Si je déforme en écrasant, par exemple, l'axe X et en dilatant l'axe Y, eh bien, mon condensat va osciller en gardant constant les axes propres et CY. D'accord? C'est une oscillation comme ce que j'ai représenté ici. Et cette oscillation se fait dans le cas, avec une fréquence qu'on peut calculer dans le cas de la constellation Thomas Fermi, avec oméga plus égale oméga moins égale racine de 2 oméga perte. En revanche, si maintenant il y a un vortex présent au cœur de ce condensat, là, eh bien, il y a levée de dégénérescence entre les modes L égale plus 2 et L égale moins 2, ce qui veut dire que si j'excite cette oscillation quadrupolaire, eh bien, je vais avoir une précession lente des axes qui va, donc ça c'est comme ça, qui correspond à la levée de dégénérescence entre oméga plus et oméga moins. Peut-être que oméga plus et oméga moins soient plus égaux, fait qu'après une oscillation quadrupolaire, eh bien, si initialement c'est parti quelque chose qui est vertical, maintenant, j'ai quelque chose qui est légèrement incliné. D'accord. Et ce que Sumeri et Zambelli ont montré, hein, c'est ce que Claude vous a expliqué, c'est qu'on peut relier cette levée de dégénérescence, c'est-à-dire cette précession des axes propres de l'oscillation quadrupolaire, oméga plus moins oméga moins, au moment cinétique qu'on cherche à mesurer LZ, Et puis il y a des choses qu'on connaît bien, c'est-à-dire la masse des atomes, et puis le rayon du condensat qu'on peut mesurer directement en regardant sa taille. J'insiste sur le fait que cette expérience est en fait très voisine également, pas seulement les sciences de Van Allen, mais également les sciences bien connues, qui est les sciences du pendule de Foucault. La raison pour laquelle, quand vous avez le pendule de Foucault qui oscille, vous avez précession du plan d'oscillation du pendule, c'est parce que vous avez la Terre qui tourne, et ça, ça peut se comprendre donc comme une dissymétrie, enfin comme levée déjà la chance pour la fréquence d'oscillation du pendule en oméga plus, enfin en sigma plus, et puis l'oscillation du pendule en sigma moins. Donc tous ces phénomènes sont vraiment reliés intimement les uns aux autres. Il y a un point que Claude vous a caché, mais que je ne vais pas vous cacher moi, c'est le fait que la règle de somme dont Claude vous a parlé, ça permet non seulement de prédire la valeur de LZ à partir de oméga plus moins oméga moins, mais il y a également une relation qui est remarquable, c'est si on croit la règle de somme, si on croit que cette règle de somme est saturée par seulement deux termes, comme on l'a expliqué Claude, eh bien en fait on s'attend à ce que oméga plus carré plus oméga moins carré soit une constante. C'est-à-dire que même si il y a levé déjà la chance pour oméga plus oméga moins, la somme de leur carré doit rester constante et égale à ce qu'elle serait en l'absence de vortex. Donc ça c'est un moyen, c'est pas mal, que ça va nous permettre de tester si la force règle de somme est valable ou pas. Alors, que voit-on quand on fait l'expérience? Eh bien on voit exactement ce qui est prédit, c'est pour ça que je vous en parle, sinon ce serait pas drôle. On voit exactement ce qui est prédit. C'est-à-dire que quand vous avez un vortex présent dans un condensat, eh bien vous avez effectivement cette levée de dégénérence entre oméga plus et oméga moins, et on peut mesurer à partir de ça le moment de cinétique. Alors ici vous avez donc toujours une figure d'un condensat, enfin une figure transverse du condensat, avec ici un vortex présent. On a en plus excité l'oscillation cordopolaire en utilisant encore notre petite cuillère laser, mais cette fois-ci avec un axe fixe. Donc ça c'est après une milliseconde d'excitation, vous avez le condensat qui est allongé comme ça. Ça, c'est après une demi-oscillation quadrupolaire, et ça, c'est après une oscillation quadrupolaire complète. Donc l'oscillation quadrupolaire dure 4 millisecondes, ça fait 1 milliseconde, ça fait 5 millisecondes, cette excitation. Et vous voyez clairement qu'il y a eu rotation des axes, hein, par un angle qui voit à peu près 30 degrés en 4 millisecondes. Donc de ça, vous voyez tout de suite qu'on peut mesurer la vitesse de précession, θ point, c'est 5,9 degrés par milliseconde. La taille du condensat, on l'a simplement en mesurant le nombre de pixels sur la caméra. Donc ça, c'est une mesure faite après temps de vol, mais compte tenu du facteur d'expansion pour remonter à la taille du condensat avant temps de vol, c'est 2 microns. Et là, il suffit d'appliquer la formule de Swingary et Zambelli, cette formule-ci, pour déduire le moment cinétique. Hein, je connais cette valeur-là, je connais R' carré, je connais la masse des atomes, donc j'en déduis LZ. Et je trouve que LZ vaut bien H bar, à 10% près, ou 20% près, 1,2 H bar. Alors, ce n'est pas une mesure très précise de H bar. Mais ce n'était pas le but non plus. Ce qui est remarquable, c'est qu'ici, vous trouvez H-bar, mesurez H-bar dans l'expérience en mesurant simplement des données complètement macroscopiques. Ce n'est pas des données microscopiques, c'est des données macroscopiques. On se contente de mesurer un angle de rotation, 5 degrés par milliseconde, c'est une mesure passée à l'œil nu. On mesure une taille, 2 microns. Bon, 2 microns, c'est petit, mais en fait, on mesure après expansion, donc c'est plutôt 200 microns qu'on mesure, ou 100 microns. Donc on mesure des grandeurs qu'on voit presque à l'œil nu, et en faisant le rapport des deux quantités, on trouve quelque chose qui a une grandeur microscopique, c'est h-bar. En fait, plus précisément, ce qu'on mesure, c'est h-bar sur m, et évidemment, on suppose qu'on connaît la masse des atomes de rubidium. Alors, si on fait cette manip plus généralement, c'est-à-dire pas seulement pour le premier vortex, au moment où le premier vortex apparaît, mais si on l'a fait en faisant un grand nombre de fréquences de rotation, c'est-à-dire dans toutes ces zones-là, on a pas mal de vortex présents sur les images, quand on prend des images équivalentes, et bien voilà ce qu'on trouve pour le moment cinétique, LZ sur H bar. Ce qu'on trouve, c'est qu'en dessous de la fréquence seuil à laquelle le premier vortex apparaît, on a un moment cinétique qui est nul, ou zéro. Donc, ça, je veux dire simplement qu'on n'a pas de levée de dégénérescence, c'est oméga plus, oméga moins, heureusement. Hein. Et puis ensuite, quand le premier vortex apparaît, on a un saut, on passe de zéro à H bar. Donc ça, c'est bien. Et puis ensuite, on trouve que le moment cinétique augmente de manière à peu près continue, jusqu'à ce qu'on atteigne des fréquences assez élevées où à ce moment-là le condensat refuse de tourner et on retombe à zéro. Alors quand on a vu ça, on a été très surpris. Hein. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Donc ce qu'on attendait, nous, c'était assez naïf. On attendait quelque chose qui était zéro, évidemment, quand il n'y avait pas de rotation. Puis on attendait un plateau à 1, lorsqu'on en était à un vortex, puis un plateau à 2, quand il y avait deux vortex, puis un plateau à 3, etc. Évidemment, c'est pas ça qu'on voit. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas ça? Eh bien, en fait, la réponse est assez simple. Il n'y a pas de raison qu'un état à deux vortex ait un moment cinétique de 2 h bar. Et pour bien vous le faire comprendre, je vais revenir à l'état à un vortex d'abord. Pourquoi est-ce que l'état à un vortex a un moment cinétique d'un h bar? Ça n'a rien d'évident, ça. L'état à un vortex a un moment cinétique d'un h bar parce que le vortex est bien centré sur le condensat. Si je prends mon vortex, mon cœur de vortex, dans un état, encore une fois, dans l'état à un vortex, je prends mon cœur de vortex et je le déplace. et je le mets en dehors du condensat. À ce moment-là, il est bien clair que le moment cyclique moyen par particule sera plus petit que h-bar. Hein, si j'ai une hauteur de vortex sur la Lune, mon condensat qui est là, il se rendra à peine compte qu'il est en train de tourner. Donc, le fait déjà qu'on ait ce saut de h-bar, c'est une information importante, ça nous dit que quand le premier vortex apparaît, il vient se mettre au centre, et pas ailleurs. Et ensuite, la raison pour laquelle, quand on a deux vortex qui sont de part et d'autre du centre, eh bien, on a 1.5 h-bar, ça, on le comprend assez bien, maintenant. Pour avoir deux h-bar avec deux vortex, il faudrait que les deux vortex soient l'un sur l'autre au centre du condensat. Et ça, on peut montrer assez simplement que c'est une situation très instable. Donc, quand on a deux vortex mais qui ne sont pas au centre, eh bien, le moment cyclique moyen par atome n'est pas 2 h-bar, mais est 1,5 ou 1,4. Ça dépend de la distance des cœurs des vortex au centre du condensat. Donc, finalement, cette variation continue du moment cyclique en fonction de oméga, ça nous dit simplement que la configuration de vortex s'adapte de manière continue à la fréquence de rotation qu'on applique à notre système, et rien d'autre. Donc finalement, ce n'est pas une surprise. Bon, la première fois qu'on l'a vu, encore une fois, on n'était pas très fiers de nous, mais bon, finalement, ça s'explique bien. Dernier point sur ces manips, est-ce que la règle de somme est effectivement valable? Eh bien, la réponse est oui. La règle de somme marche effectivement très bien, enfin, au moins dans la mesure où on peut la tester. À partir de nos données expérimentales, on peut bien sûr mesurer oméga plus moins oméga moins, ce que j'ai utilisé au transparent précédent, mais on peut calculer, enfin, on peut déduire oméga plus et oméga moins. Alors là, je vous ai représenté ce qu'on trouve. Encore une fois, ici, c'est la fréquence de rotation oméga sur 2 pi. Et puis ici, ce sont les fréquences. Donc oméga plus, c'est ça, la fréquence du modèle égale plus 2. Ça, c'est oméga moins, la fréquence du modèle égale moins 2. Donc tout le raisonnement précédent était fait sur la différence oméga plus moins oméga moins, c'est-à-dire la différence entre la courbe noire et la courbe rouge. C'est comme ça que j'ai calculé le moment cinétique. Mais ce que nous dit la règle de somme, c'est que oméga plus carré plus oméga moins carré doit être constant. Eh bien, vous voyez que ça marche effectivement remarquablement bien. Cette règle de somme est bien vérifiée. Donc, on peut avoir confiance dans notre mesure de moment cinétique. Donc ici, ce sont les points où le condensat ne tournait pas. Donc oméga plus égale oméga moins. Ici, vous avez ouverture d'un gap. Ça correspond au premier h-bar qui apparaît, le vortex centré. Et puis ensuite, c'est la variation continue que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de paramètre ajustable pour cette courbe-là, c'est vraiment une preuve de la validité de la règle de somme. Bon, autre question que j'avais évoquée tout à l'heure, qu'est-ce qui détermine le nombre de vortex qu'on peut mettre dans un condensat? Pourquoi est-ce que dans ce condensat-là, par exemple, on a 12 vortex qui apparaissent et pas beaucoup plus ou beaucoup moins? Et bien là, je vais m'appuyer sur un fait bien connu, qui est que dans la limite de grand nombre quantique, on s'attend toujours pour un système quantique à retrouver un comportement classique, ou quasi classique. Alors, dans le contexte des rotations, qu'est-ce que ça veut dire un comportement classique? Eh bien, ça veut dire qu'on doit retrouver plus ou moins la rotation d'un corps rigide, c'est-à-dire un champ de vitesse moyen proportionnel à la distance au centre. Hein, quand vous tournez, vous avez une rotation rigide, vous avez V égale oméga fois R. Alors, est-ce que ça marche bien ici? La limite des grands nombres quantiques, évidemment, ici, c'est la limite des grands nombres de vortex. Hein. Donc on va comparer la prédiction quantique et la prédiction classique pour voir si effectivement elles coïncident à peu près dans cette limite des grands nombres de vortex. Donc ici, vous avez tracé un cercle qui tourne autour de ce condensat. Donc c'est un cercle qui a un rayon de 80 microns après expansion, donc 5 microns avant pour dans cette situation-là. Et j'ai 12 vortex à l'intérieur. Quel est le champ de vitesse sur ce cercle bleu? Alors si je crois à la mécanique quantique, on a vu tout à l'heure que la circulation de la vitesse sur ce cercle est quantifié, et le nombre de quantas, cette fois-ci, c'est 12. Donc j'ai 2 pi fois la vitesse sur le cercle, fois le rayon du cercle, doit être égal à 12 fois h sur m. Si je prends la physique classique, eh bien, je me dis que la vitesse moyenne de cet objet, c'est simplement grand oméga fois le rayon. Donc j'ai deux valeurs de vitesse, des quantiques et des classiques, que je compare. C'est le rapport entre les deux, et en l'occurrence, ça doit valoir 12 h bar sur m oméga r2, et quand on me fait l'application numérique, eh bien, on trouve que ça vaut 0,7. Alors, c'est pas exactement un système qui est exactement un système classique. Mais ce qu'on voit, c'est que ce nombre de vortex de 12, c'est celui qui, enfin, j'aurais pu avoir 13 ou 14, mais j'aurais certainement pas pu avoir 120 ou 1. Ce nombre de vortex de 12, c'est ce qui correspond plus ou moins à la limite d'une rotation classique. Alors, vous voyez maintenant comment faire si vous voulez mettre beaucoup plus de vortex dans votre système. Eh bien, en fait, ce qui est constant, si je dis que ce rapport-là doit valoir 1 à la limite des grands nombres quantiques, si je veux aller vers les grands N ici, pour une fréquence de rotation donnée, il faut que j'aille vers les grands R. D'accord? Aller vers les grands R, c'est aller vers des condensats beaucoup plus gros, avec beaucoup plus d'atomes, et ça permettra de mettre beaucoup plus de vortex. Cette manip-ci, elle a été faite au MIT, où là, cette fois-ci, ils ont pris des condensats avec un nombre d'atomes qui était 100 fois le nombre d'atomes que nous on avait, parce que nous, notre nombre d'atomes, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, quelques 10 puissance 5. Là, ils avaient 50 millions d'atomes. Eh bien, ils ont pu, en tournant des fréquences très voisines des nôtres, nucléé jusqu'à 150 vortex. Là, vous voyez très très clairement le réseau triangulaire de la Brikhozov. Alors, il y a beaucoup d'intérêt dans ces condensats à grand nombre de vortex, en particulier étudier comment les vortex s'échappent, ensuite, comment est-ce que ce réseau de vortex décroît une fois qu'il a été nucléé. Ça a été étudié en particulier par Peter Fitchev et Zoran Zhukov. L'intérêt, c'est que ce système-là présente une analogie assez étroite avec ce qui se passe dans les étoiles à neutrons, où on pense que les leaks, je ne sais pas comment on dit, les sursauts peut-être en français, on pense que les leaks correspondent justement à des vortex dans le cœur superfluide de l'hélium qui atteignent la surface, la croûte de l'étoile. Donc on peut vraiment faire une analogie, enfin, je ne sais pas si elle est très précise, mais on peut faire une analogie entre ces systèmes-là et puis ce qui se passe dans une étoile à neutrons. Bien, alors, j'en arrive au dernier point que je voulais évoquer, qui est la fréquence de nucléation. À quelle fréquence est-ce qu'il faut qu'on tourne pour nucléer le premier vortex? C'est ce qui joue le rôle de oméga C, l'équivalent de oméga C pour les magnétiques. Eh bien, d'abord, ce que je dois dire, c'est que quand on a fait ces manips, on a été surpris parce que la fréquence critique qu'on a trouvée, la fréquence à laquelle on détournait, était beaucoup plus grande que la prédiction thermodynamique. Claude vous a expliqué ce qu'était cette prédiction thermodynamique, hein, je le rappelle en deux mots. Quand vous prenez un état à un vortex, vous pourriez vous dire spontanément, cet état à un vortex a une énergie plus grande que l'état à zéro vortex. Parce que l'état à un vortex, vous avez un champ de rotation. Mais il ne faut pas comparer les énergies dans le référentiel de laboratoire, puisque vous avez un terme dépendant du temps dans le référentiel de laboratoire, puisque vous avez une anisotropie tournante. Donc il faut comparer les énergies dans le référentiel tournant. À ce moment-là, vous avez un terme dans le référentiel tournant qui est le moins oméga LZ, je vais peut-être laisser le tableau. Celui-là. Non, c'est pas ça. C'est accueil des bas. Voilà. Donc vous avez l'Hamiltonien que vous auriez dans le labo, moins oméga LZ. Et donc ce qui se passe, c'est que même si le vortex a une énergie cinétique plus grande que l'état à zéro vortex, eh bien le terme moins oméga LZ peut compenser cette énergie supplémentaire, et donc faire en sorte que l'état fondamental du système devienne l'état à un vortex. D'accord ? Le gain en énergie dû à ça compense la perte d'énergie dû à ça. Donc de ça, on déduit ce qu'on appelle une fréquence de stabilité thermodynamique, qui est celle que j'ai rappelée sur ce transparent. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est que si on tourne simplement à cette fréquence-là, on n'oublie pas de vortex. Il faut qu'on tourne plus vite que ça pour que les vortex acceptent de rentrer dans notre système. Et en fait, ce qu'il faut, au moins si on a une cuillère laser qui est très faible, il faut qu'on tourne à une fréquence qui est voisine de la fréquence de résonance du mode quadrupolaire, oméga perte sur racine de 2. Alors, encore une fois, ça nous a surpris au début, et puis maintenant on pense qu'on comprend assez bien pourquoi ça se passe comme ça. En fait, la nucléation dans ces systèmes, on pense, se passe en deux étapes. La première étape, ça consiste à former un état tournant elliptique, qu'en fait Claude a expliqué au début du cours de cette année, hein, c'est un état qui a été prédit par Rekati, Zambelli et Slingari. C'est un état tournant elliptique, c'est un état champ vortex, c'est un état qui est présenté ici, et il est formé de manière résonante si on excite le système à une fréquence voisine de la fréquence quadrupolaire. Donc c'est la raison pour laquelle on voit ce oméga perte sur racine de 2 apparaître, il faut que la fréquence de la rotation, enfin, la fréquence de la perturbation qu'on applique, qui est 2 oméga, quand on applique notre cuillère, soit voisine de la fréquence oméga 2, racine de 2 oméga perte, qui est la fréquence du mode quadrupolaire. Donc ce qui se passe, c'est que, ça ce sont des photos expérimentales, on part à l'instant t égale 0 d'un condensat qui est bien rond, et puis on applique notre cuillère tournante, et donc dans les 100 premières millisecondes, ou 150 premières millisecondes, ce qu'on forme, c'est l'état tournant que Claude vous a décrit dans son cours au début de cette année. Donc c'est un état qui est donc elliptique dans le plan XY, c'est toujours l'axe du SIGA qui est comme ça, mais je ne me préoccupe pas de la SEZEN, hein, je ne me préoccupe que de ce qui se passe dans le plan XY. J'ai donc cet état tournant qui tourne avec la cuillère. Et puis après, si on est donc voisin de la fréquence quadrupolaire, l'excitation de cet état tournant est très efficace, et donc on a une forte ellipticité, et ce qui se passe, c'est que cet état est en fait dynamiquement instable. Ça a été prouvé par Yvan Castin et Chouvassi-Sina, un papier qui vient de sortir. Cet état est dynamiquement instable, et ça correspond bien à ce qu'on voit dans l'expérience, au lieu de rester une belle ellipse, cet état devient un peu lenticulaire, là, et se transforme en une forme de ce qu'on pourrait appeler une galaxie barrée, si vous vous rappelez les dessins, hein, enfin les photos qu'on a en astrophysique. Donc vous avez cet état tournant qui a des bras qui apparaissent, des filaments, si vous voulez, qui apparaissent, et ces filaments vont aller chercher les vortex qui sont sur les bords. Là. Sur les bords, même initialement, vous pouvez toujours considérer que vous avez plein de vortex. Ça coûte aucune énergie de mettre des vortex où il n'y a pas d'atomes. Donc vous avez ici, si vous voulez, un plasma de vortex et d'antivortex, c'est-à-dire des vortex avec une circulation positive, des vortex avec une circulation négative. Mais les bras qui apparaissent là vont aller chercher ces vortex, et puis les vortex avec une charge positive, c'est-à-dire qui tournent dans le bon sens, sont ramenés vers le centre, et là maintenant ils peuvent donc rentrer dans le condensat, et ici vous avez un état où vous avez quelques vortex présents. Alors à ce stade-là, ils ne sont pas encore bien réguliers, mais maintenant il suffit d'attendre, c'est certain d'avoir une cuillère tournante, il suffit d'attendre, et les vortex s'arrangent pour former un réseau bien régulier. D'accord ? Donc voilà comment est-ce qu'on pense que les vortex sont nucléés dans nos expériences. Alors comme j'ai 3 minutes, je vais vous montrer un petit film. Alors là, je vais prendre des risques, c'était une PowerPoint. Je vais vous montrer un petit film, je vais même vous en montrer deux. Le premier, c'est un film qui a été fait, c'est pour les paramètres de notre expérience. Hein. C'est un film qui a été fait dans le groupe du NIST, Gaithersburg, dans le groupe de Charles Clark, par David Seder, et qui simule vraiment notre expérience. Donc, vous voyez, c'est la résolution de l'équation de Grosseteleski. D'accord ? Donc, ils ont commencé par appliquer la cuillère à un centré égal 0. Vous avez juste formé l'état tournant. Et puis ensuite, vous voyez des figures qui sont des figures très turbulentes, qui rappellent beaucoup ces figures-là. Là, il n'y a pas du tout l'effet d'ordre des vortex, parce qu'il n'y a pas du tout de dissipation de l'équation de Grosseteleski, donc il n'y a pas moyen, ici, d'arriver à un système, je le repasse, il n'y a pas du tout moyen d'arriver à un système ordonné. Voilà. Donc, vous voyez, déstabilisation sur le bord, des vortex commencent à rentrer, et puis vous avez, à ce moment-là, plein de vortex, peut-être une 5, 10 vortex, je ne sais pas, ici, il n'est pas du tout bien rangé. Le deuxième film que je vais vous montrer, c'est un groupe japonais, le groupe de Tsubota, qui est également fait pour nos paramètres expérimentaux. Mais eux, ils ont rajouté... Hop. Ah là là, c'est... Ils ont rajouté à l'équation de Grosseteleski un terme dissipatif. Ça va venir, hein. Enfin, j'espère. Ils ont rajouté un terme dissipatif. Normalement, ça vient. Voilà. Et, oui, d'autres choses que je veux dire, c'est une simulation à deux dimensions. Donc là, vous verrez les vortex avec un bien meilleur contraste. Alors, ça commence comme le film, c'est-à-dire formation de cet état tournant. C'est un film qui est fait dans le référentiel tournant lui-même. Donc c'est pour ça que cet état tournant a l'air d'être plus ou moins fixe. On s'est mis dans le référentiel tournant pour fixer. Vous avez, ça y est, voilà, la surface commence à se déstabiliser. Vous allez voir les vortex rentrer, c'est des gros points noirs. Donc là, ils sont avec un très bon contraste, c'est une simulation à deux dimensions. Et là, comme il y a un terme dissipatif qui a été ajouté à l'équation de Grosseteleski, là, les vortex vont bien s'ordonner. Et ils ont mis un terme dissipatif à la main, avec le bon poids, juste pour que les temps d'amortissement soient voisins de ce qu'on voit expérimentalement. Et voilà, donc là vous avez un réseau à 4 vortex qui viennent se former. Voilà. Donc, le scénario que je vous évoquais là à l'instant, je pense, est bien confirmé par ces différentes simulations. Alors, je reviens au séminaire. Donc ça, on l'a déjà dit. Et je passe donc à la fin, qui est la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Eh bien, je voudrais réinsister sur le fait que c'était important et c'est toujours important d'étudier ces systèmes de vortex. La raison essentielle étant que c'est vraiment, en fait, ces vortex sont apparaissent de manière quasi universelle. C'est-à-dire que dès que vous prenez un système qui est un système quantique macroscopique, et ce système quantique macroscopique, ça peut être de l'ion superfluide, ça peut être un supraconducteur, on en a parlé, ça peut être des étoiles à neutrons, ça peut être des noyaux, eh bien, la seule manière non triviale de le mettre en mouvement, ce système microscopique, c'est de mettre à l'intérieur des vortex. Donc, c'est important de vérifier qu'il y a bien ces vortex qui sont bien là pour ces nouveaux systèmes quantiques microscopiques que sont les condensats en phase gazeuse. Pour ces condensats en phase gazeuse, eh bien, je crois qu'on peut dire maintenant que la nucléation semble bien comprise. J'ai pas du tout décrit tous les travaux théoriques qui ont été faits. Là, j'ai résumé quelques groupes de théoriciens qui ont travaillé sur ce domaine. Il y a différents scénarios qui ont été évoqués. Je dirais, on a la chance d'avoir des systèmes pour lesquels on peut vraiment voir cette nucléation à l'œuvre. C'est pas le cas pour l'hélium liquide, par exemple. La nucléation des vortex dans l'hélium liquide est difficile à comprendre. On pense que les vortex sont accrochés sur les parois au moment où on traverse le transition superfluide, et puis ensuite ils se décrochent. Donc c'est intimement lié à la rugosité des parois, la géométrie des parois. Nous, on a des systèmes de ce point de vue-là beaucoup plus purs, dans lesquels on peut voir d'où viennent les vortex, et on peut suivre leur apparition dans nos systèmes. Alors, je ne vais pas vous laisser avec l'idée qu'on a tout compris. Il y a encore pas mal de questions ouvertes, en particulier pour ce qui est des propriétés dynamiques du condensat en rotation. La cristallisation du réseau de vortex n'est pas très bien comprise. Le groupe japonais, je vous l'ai dit, a mis à la main un terme dissipatif dans son équation de Grosseteleski, mais comprendre quelle est l'origine microscopique de ce terme dissipatif, ben, ça reste à faire. L'étude de la décroissance du réseau de vortex est aussi un problème assez ouvert. Ce qu'on est en train de faire, nous, c'est d'étudier Maintenant, l'aspect dynamique de la ligne de vortex elle-même, donc là, associée comme un objet fixe, comme un objet rigide, et puis des oscillations de cette ligne de vortex, qu'on appelle des modes de Kelvin, modes de Kelvin, donc des Kelvin. Et puis enfin, il y a toute une gamme de paramètres qui reste bien étudiée, qui est le cas où le gaz tourne à une fréquence qui est voisine de la fréquence du piège. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, cette zone-là? C'est une zone dans laquelle la force centrifuge, moins n oméga 2R, avec oméga égale grand oméga, compense exactement la force de piégeage. Donc à ce moment-là, vous trouvez avec un système de particules libre, et un système de particules dans le référentiel en rotation, qui est l'équivalent d'un système de particules chargées dans un champ magnétique uniforme. Donc on est à ce moment-là dans une situation très proche, si vous êtes à deux dimensions par exemple, très proche des manipes des ferrules quantiques. Ça commence avec des bosons, c'est avec des fermions, mais bon, c'est pas grave, ça. C'est quand même intéressant. Donc il y a toute une propriété, une gamme d'expériences qui n'ont pas encore été faites, mais qui, il y a des théoriciens qui commencent à se pencher là-dessus, et c'est une zone qu'on aimerait bien étudier également. Pas forcément dans le cadre des vortex, mais plus dans le cadre des systèmes quantiques corrélés. Voilà. Eh bien, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention. Non, c'est ce qu'il y a, ça veut dire le spin. Oui, oui. Ah, oui, oui, ça c'est une bonne question. Pour le moment, non, parce qu'on est dans un piège magnétique. Donc, on gèle le degré de liberté spin interne. J'ai dit, nos atomes sont dans l'état M égale plus 2, point. Si on passe dans un piège dipolaire, à ce moment-là, tous les sous-niveaux magnétiques peuvent être piégés. Donc, prenons un S égale 1, simplement. Donc, à ce moment-là, M égale plus 1, moins 1, 0, pour qu'on ait un spinner. Et à ce moment-là, on peut avoir des couplages entre les deux, et là, la physique se rapproche plus de celle de l'hélium 3, l'hélium 3 superfluide, enfin, le 3 liquide, hein, où là, eh bien, il y a aussi des vortex qui apparaissent, mais à ce moment-là, c'est des singularités beaucoup plus complexes, qui ne sont pas forcément des zéros de la densité, mais qui peuvent être des excitations, enfin, des modes où on couple le moment cyclique interne au moment cyclique externe. Donc, la réponse à la question, c'est pour le moment, c'est figé. Mais vraisemblablement, dans les années qui vont venir, il va y avoir des expériences faites dans les pièges bipolaires où on relaxera la contrainte sur le moment cyclique interne, et à ce moment-là, bien, on aura une classe de phénomènes beaucoup plus riche. Oui. Oui, ça, je ne connais pas ces camps, ça ressemble beaucoup, effectivement, oui, où on couple, oui, où on couple deux liberté interne et externe, oui. Oui, ça ressemble à ça, oui.
Yeah.
Yes, I see your point. It's true that as soon as you accept the GP equation, then you are left with the Bogoliubov theory and you have the Landau criterion immediately. Okay. Well, it has to be discovered by an experimentalist. It has to be invented by a theorist or discovered by a theorist. Yes. Yes. Well, yes, but you, I agree with you, but you could still imagine that the collective mode, the frequency of this mode, is coincide with the one derived by Gostiewski, but there is also another theory predicting the same, which could predict the same mode, same frequencies, but this theory we do not know. So we think that it's a GP equation. On the other hand, when you move an object and you see that this object moves without dissipation, then you have superfluity by definition. While just seeing that the frequencies coincide is of course a very strong evidence, but it's not a complete proof, because you didn't prove that. Yes. Well, there is David Guérioudin here, so I think I should leave David answer this question. No, I had the same argument with a Russian theorist from nuclear physics a few weeks ago, and he was not happy at all indeed with the idea that the Schiller mode was revealing superfluity more than any other mode. He was telling me that either you trust the GP equation or you don't trust it. But if you trust it, you should trust all modes and not specifically one. So David maybe wants to comment. But but as soon but on the other hand, as soon as you have a non-zero temperature, you will find that most oscillations whose modes are damped, except for the cold mode, which is trivially decoupled from anything else. Yes, but phonon modes, for example, in superphysicium, are also damped. As the if temperature is at zero. Or two macroscopic fluids, yes. Yes. Yes, okay. Yes, yes. Okay, okay. So in this sense, that's true that no experiment has been done on this.
I mean, the experiment is very interesting. It's kind of makes it that I think the goal is to be a little bit more precise. Otherwise, you know, the
well, what I meant in my talk was not the motion of the fluid. It was, again, an external object moving without dissipation, which you may consider as a trivial thing in t equals zero, but yes. Oui, c'est ça. Pour s'affranchir de la... Voilà, c'est ici. Pour essayer d'abaisser la fréquence de nucléation et essayer de fabriquer des états tournolithiques qui ne seraient pas des modes quadripolaires, donc, mais des états avec une symétrie plus élevée. Donc pour ça, il faut pas une cuillère qui est en X2 moins Y2, mais une cuillère un peu plus complexe. Et effectivement, en faisant ça, on a pu, bon, je n'ai pas le résultat ici, mais on a pu abaisser la fréquence de nucléation, c'est-à-dire qu'on a pu être présent non pas avec oméga perte sur racine de 2, mais oméga perte sur racine de 3, par exemple. Et ça a bien marché. C'est-à-dire qu'on a d'abord excité. Voilà, on a d'abord excité un autre mode de surface qui lui-même est instable et qui a donné des choses des vortex. Et je crois qu'au MIT, où là, ils excitent leur condensat avec une cuillère laser toujours, mais la taille de la cuillère laser est petite devant la taille du condensat, ce qui est juste la situation opposée à la nôtre. Eux n'ont pas du tout un potentiel harmonique pour leur cuillère laser. C'est un trou finalement qui crée dans le condensat et qui tourne. À ce moment-là, ils ont pu abaisser beaucoup leur fréquence de vibration en excitant des modes très très élevés. Non, mais je vais faire un calcul pour un gaz parfait, qui est un calcul très simple. Donc, je prends un petit condensat à deux dimensions, donc l'état fondamental est non dégénéré, et c'est exponentiel de moins x2 plus y2. Le premier est excité deux fois dégénéré, hein, ce que je dois rappeler, donc, et je peux prendre comme base x plus y exponentiel moins x2 plus y2. Une fait grâce des facteurs... Et puis j'aurai le x, voilà, j'ai x plus y, x moins y. Donc je vais faire une combinaison linéaire du x plus y et de celui-là. Donc si je fais une combinaison linéaire de ça et de ça, je vais prendre donc alpha fois lui, plus bêta fois ça. Donc j'aurai alpha plus bêta fois x plus y, exponentielle de moins x2 plus y2. Donc je prends cette fonction-là. Alors il est bien clair que cette fonction-là, c'est une combinaison linéaire d'un état moins x1 et moins x0. Donc le moment cyclique moyen des atomes dans cette superposition est entre 0 et 1 h bar. Ça va être 0,5 h bar si je prends alpha égale bêta égale 1 sur racine de 2. Et ça, ben, il est bien clair que c'est quelque chose qui a un trou, et non pas en 0. Si je prends ça, c'est un trou en 0. Mais si je prends alpha plus bêta x plus y, c'est un trou au point x plus y égale moins alpha sur bêta. D'accord? Donc ça reste une fonction d'onde qui a un trou, avec une circulation quantifiée autour de ce trou, mais c'est un trou qui n'est pas au centre. Et plus je déplace le trou, c'est-à-dire plus je vais prendre alpha grand par rapport à bêta, plus je serai dans l'état 0 et moins je serai dans l'état 1. Donc plus mon moment cyclique sera petit. Donc je vois bien là un moment cyclique moyen par particule qui passe continuellement de 0 à 1 quand je change les poids de ma... Ah non, c'est pas l'état propre de LZ, non, non, non. Ben, je suis en train de l'envoyer sur la Lune, là. Hein. Quand je prends alpha, si je prends alpha égale 384 000... Ah ben oui, parce que c'est une rotation rigide, en oméga fois R et non pas en 1 sur R. Le champ de vitesse d'un vortex est en 1 sur R, donc si on est loin, on ne tourne pas. Une rotation rigide, le champ de vitesse est proche de la R, donc si on est loin, on tourne beaucoup. Sur un manège, on tourne beaucoup. Ha ha ha.